Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. C'est le 221e numéro de Mélomanie et l'actualité musicale est largement dominée par le chant et l'art lyrique ces temps-ci. Dans un seul lieu qui en est un peu le temple à Toulouse et dans notre région, le Théâtre du Capitole devenu Opéra National du Capitole. Comme nous vous l'avions annoncé la semaine dernière, les représentations de Tristan et Isolde ont commencé dimanche. Il en reste trois, les premiers 4 et 7 mars pour être précis. Mais il n'y a pas que le célèbre opéra de Richard Wagner à voir au Capitole en ce moment. Il y a d'autres rendez-vous. Pour vous parler de tout ça et vous présenter les événements à venir, je reçois encore aujourd'hui mes deux complices du précédent numéro de Mélomanie, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Il est accompagné de Robert Pénavert, l'autre cofondateur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Voici donc notre trio une nouvelle fois réuni. Et sans plus attendre, nous allons revenir ensemble sur l'actualité musicale la plus récente, Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Nous filons d'emblée à l'Opéra National du Capitole. Robert Pénavert y a assisté à la première de Tristan et Isolde dimanche. Mais dans la mesure où ni Serge ni moi-même ne l'avons encore vu, nous allons attendre la semaine prochaine pour en parler et revenir sur cette production. Une chose que l'on peut dire tout de même, Robert, c'est que la salle du Capitole était comble lors de la première et qu'il reste très peu de place pour les trois autres présentations. Il faut vite se dépêcher si on veut y assister.
Effectivement, et la première était quand même un dimanche après-midi, c'est en période scolaire, et c'était comble. Et je sais que les trois autres spectacles vont être pareils. Alors, il reste toujours quelques places, peut-être pas les meilleures, c'est évident, mais si vous voulez voir et entendre ce spectacle sublime, ben, il faut vous précipiter. Et il me tarde d'avoir vos retours à tous les deux pour que nous puissions en parler.
Donc voilà, il doit rester quelques dizaines de places sur les trois représentations restantes, donc précipitez-vous et allez sur le site du Théâtre du Capitole.
Voilà, alors juste pour les deux représentations qui arrivent, qui sont des représentations à soirée, je le dis parce que ça peut intéresser. Il y a un partenariat entre guillemets, si vous voulez, avec quelques restaurants très très proches du Théâtre de l'Opéra National du Capitole, pardon. Et le premier entracte durera près d'une heure. Ce qui fait que si vous réservez dans ces restaurants, il y a des menus qui peuvent être servis très très vite. Et si vous réservez, vous avez le temps, vraiment le temps de prendre entrée plat ou entrée plat dessert, peu importe. Voilà. Donc vous ne mourrez pas de faim parce qu'effectivement, c'est plus de 5 heures, entracte compris, de spectacle.
Donc il faut prendre ses précautions, y compris pour avoir l'estomac bien rempli et ne pas souffrir d'une fringale en plein opéra. Il y a donc trois représentations de l'opéra de Richard Wagner, l'Opéra National du Capitole, les mercredis 1er, mardi 7 mars à 18h, ainsi que le samedi 4 à 15h. Je rappelle que Mathias Goerne tient le rôle du roi Marc dans Tristan et Isolde, mais avant la première représentation dimanche dernier au Capitole, le grand baryton allemand a donné au même endroit un récital vendredi soir. Il y avait eu un changement de programme pour cette soirée en raison de l'indisponibilité du pianiste initialement prévu pour accompagner le chanteur. Nous avons ainsi pu découvrir le tout jeune pianiste finlandais Anton Mejias aux côtés de Mathias Goerne, qui a finalement interprété Le Voyage d'hiver, le célèbre cycle de Lieder de Franz Schubert. On parlera du pianiste dans un second temps. On va d'abord parler de Mathias Goerne et de sa prestation. Serge, vous étiez présent à son récital. Est-ce qu'il a été à la hauteur de sa réputation dans une œuvre, il faut dire, qu'il pratique de très longue date puisqu'il l'avait enregistrée il y a 20 ans?
Ah bah, c'est une œuvre qui l'a marqué de son empreinte, on peut le dire. Hein. Alors d'abord, il faut préciser que c'est un habitué de Toulouse tout de même.
Oui, depuis quelques années, oui.
Et très récemment, il a été dans Amfortas dans le Parsifal de Wagner en 2020. Il a été au reste dans l'Electra de 2021. Et il a déjà interprété sur la scène du Capitole le cycle de la Belle Meunière de Schubert en 2021. Donc c'est vraiment un habitué. Alors c'est un grand chanteur hein, dont la voix a changé un peu, s'est assombri en quelque sorte, mais vraiment avec un sens de la déclamation et de l'émotion et des nuances qui est tout à fait impressionnant. Alors c'est ce voyage d'hiver, donc Winterreise en allemand, il n'y a pas d'article d'ailleurs, c'est voyage d'hiver,
tout à fait.
Et donc ce sont 24 Lieder qui se succèdent avec des atmosphères différentes sur les poèmes de Wilhelm Müller, avec des thèmes qui sont profondément douloureux, puisque c'est le thème du voyage et de la solitude, de l'amour et de la mort, et précisons l'importance de ce que j'ai du mal à appeler l'accompagnement de piano, parce que ce n'est pas un simple accompagnement, c'est vraiment un duo, un échange entre les deux, entre la voix et l'instrument. Et là, dès les premières notes de fameux Gute Nacht, Bonne Nuit, et qui ouvre le cycle, cette fusion entre la voix et le clavier s'est avérée idéale, parfaite, vraiment à la fois sur le plan sonore et sur le plan expressif. Et donc, ce qu'on a surtout admiré au cours de cette interprétation, c'est la variété du timbre, des couleurs, qui collent essentiellement aux paroles. Donc c'est le texte qui compte avant tout et la musique s'adapte au texte.
Et oui, le texte est premier dans le lead comme dans la mélodie française.
Bien entendu. Alors, par-dessus tout, ce qui a impressionné, c'est l'investissement du chanteur. C'est une démarche vers la mort et on a l'impression que sa propre vie en dépendait en quelque sorte, propre vie de l'interprète. Alors en même temps qu'il chante, il ne se contente pas de chanter, il joue, il danse même. On l'a vu enlacer le piano, se tourner vers son complice en quelque sorte, comme pour le prendre à témoin. Donc il joue ce cycle de manière impressionnante. Et la gamme expressive donc est incroyable. À la fois c'est du tonnerre au murmure, puisqu'il peut avoir un volume de voix impressionnant, donc du tonnerre au murmure, et puis exprimer à la fois la révolte, la douleur, la colère, le désespoir, c'est vraiment un art accompli du tragédien auquel on assiste avec lui. Alors avec des oppositions incroyables, comme dans le lead Der Lindenbaum, le tilleul. Alors là, ça commence de manière très apaisée. Et puis il y a des déchaînements liés à ceux de la nature, comme dans Der Stürmische Morgen, c'est-à-dire le matin de tempête. C'est vraiment tout à fait impressionnant. Et alors, je dois dire que c'est à la fin le dernier lead, le 24e, Der Leiermann, le joueur de vielle. Là, alors là, la nostalgie entraîne une émotion, mais un paroxysme d'émotion, au point que les gorges se serrent, on le sent dans le public, et c'est un long silence qui prolonge ce lead final. Vraiment, l'ovation, parce qu'ensuite il y a une ovation, elle met du temps à se produire, à exploser vraiment. Mais donc le silence prolonge beaucoup l'émotion de ce dernier lead. Alors, signalons quand même que le premier geste du chanteur, il s'est adressé à son pianiste. Et il l'a serré dans ses bras avec une chaleur, une reconnaissance. On sentait qu'il était vraiment ému et ébloui par l'art de ce tout jeune pianiste de 22 ans.
Dont nous allons parler un peu plus longuement, mais on va d'abord écouter une première fois Matthias Goerne dans Voyage d'hiver de Franz Schubert. Et vous avez raison, ça, même en français, il ne faut pas prononcer l'article. Faut dire Voyage d'hiver, c'est le cycle Voyage d'hiver. Nous allons écouter le cinquième lead, me semble-t-il, Der Lindenbaum, le tilleul, vous l'avez cité. Oui. Et là, c'est Alfred Brendel qui accompagne Matthias Goerne au piano.
Brunnen vor dem Tore
Der Lindenbaum, le tilleul, lead extrait de Voyage d'hiver de Franz Schubert, chanté par Matthias Goern, accompagné ici par Alfred Brendel, un extrait de leur CD enregistré en 2003. Serge, je voudrais que vous disiez un mot sur ce jeune pianiste finlandais, Anton Mejias, prononciation incertaine, je ne sais pas comment il faut prononcer. Oui. Donc c'est lui qui a accompagné Matthias Goern vendredi au Capitole. Il a 22 ans et il semble que ce soit un très bon camarade de promotion de Tarmo Peltokoski à l'Académie Sibelius d'Helsinki.
Oui, mais avant, précisons quand même que le pianiste titulaire, on peut dire, accompagnateur de Matthias Goern, c'est Alexander Schmalz. Et c'était lui qui l'avait accompagné dans sa précédente prestation sur le voyage,
et le programme qui était prévu n'était pas du tout Voyage d'hiver.
Alors, le programme qui était prévu...
Il y avait les Wesendonck, leader.
Les Wesendonck, leader, ce qui est une grande curiosité, puisque pour ma part, je ne l'ai jamais entendu.
Un homme, non.
Par une voix d'homme, hein. C'est écrit pour une voix de femme, explicitement. Mais bon, aucune importance. Donc, il y avait ça, puis il y avait un cycle de mélodies d'Hans Pfitzner, qui n'est pas le plus couramment au programme, et puis donc des leaders de Richard Strauss, donc également, alors que ce qui est plus courant. Et donc, ce pianiste Alexander Schmalz a dû être remplacé, problème de santé, a dû être remplacé par le jeune pianiste, alors qui est finno-cubain. Donc il a...
C'est Mejias.
Alors ça serait Mejias.
Il semblait que ça sonnait quand même bien espagnol.
Oui. Donc il est quand même né à Helsinki, hein, il est né en Finlande. Et donc c'est un jeune prodige, un de plus, qui effectivement a travaillé, non seulement étudié dans la même académie Sibelius d'Helsinki que Tarmo Peltokoski, qu'on connaît maintenant.
Nouveau directeur musical.
Qui va succéder à Tugan Sokiev à la tête de l'Orchestre National du Capitole. Mais, alors, suprême coïncidence, ces deux jeunes musiciens ont déjà récemment collaboré, notamment pour une série de concerts à Manchester et à Los Angeles, et exactement au Hollywood Bowl, avec le Los Angeles Philharmonic Orchestra. Donc ils se connaissent. Oui. Donc peut-être qu'on aura quelques chances de le revoir à Toulouse.
C'est très possible.
Et on peut ajouter qu'ils ont exactement le même âge.
Ah oui, 22 ans.
Absolument. 22 ans tous les deux, ce qui est vraiment incroyable. Et alors, donc, il a vraiment été le compagnon du soliste,
mais c'est
compagnon
une première
de la
pour
voix.
Tous les deux ensemble, c'est la première fois, je pense.
Ah, je suppose,
Parce qu'il a été appelé un peu à la rescousse,
Anton
Mejias. Hein.
Peu de temps avant, ils n'ont pas dû répéter très longtemps et très souvent, donc d'où l'enthousiasme de Matthias Goern à la fin du concert, à l'endroit de son jeune accompagnateur.
Pour le remercier. Hein.
Ah oui, il y avait vraiment de quoi.
Et on n'a pas dit, c'était très très bien rempli, hein, la salle.
Oui, la salle presse, quasiment pleine, oui, absolument.
Ce qui, pour un récital, c'est pas courant non plus.
Non,
ça montre la santé quand même actuelle de l'Opéra National du Capitole et la confiance que lui accorde le public toulousain. Nous allons retrouver une seconde fois Matthias Goern dans Voyage d'hiver de Franz Schubert. Il chante ici Einsamkeit, solitude, toujours accompagné par Alfred Brendel. Thank you. Einsamkeit, solitude, lead extrait de Voyage d'hiver de Franz Schubert, chanté par Matthias Görn, accompagné par Alfred Brendel. La pièce avec laquelle nous concluons cette première partie d'émission, petite virgule musicale, et l'on se retrouve en compagnie de Serge Chosy et Robert Pénavert pour la partie agenda de ce numéro. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
L'agenda de Mélomanie avec Serge Chosy et Robert Pénavert. L'Opéra National du Capitole se taille encore la part du lion cette semaine, puisque si les représentations de Tristan et Isolde s'y poursuivent, comme nous vous l'avons annoncé, d'autres événements y sont prévus, et ce dès le jeudi 2 mars, avec le Midi du Capitole de la soprano française Gabrielle Filipponet. Originaire de notre région, Robert, elle est née à Albi, mais je crois qu'elle n'y a pas grandi. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette chanteuse qui commence à faire quand même beaucoup parler d'elle, hein.
Donc, Gabrielle Filipponet, nous la connaissons, puisque déjà en 2010, dans le cadre d'une saison hors les murs pour des raisons de travaux, elle avait interprété Gabrielle dans Le Voyage à Reims de Rossini, lors d'une tournée de jeunes chanteurs qui avait accueilli le Toulouse comme Bordeaux, Montpellier, Nancy, Marseille et Vichy. Alors ensuite, elle a été à Dinah il y a 3 ans au Théâtre du Capitole, en deuxième distribution donc, de l'Élixir d'amour. Elle était en alternance avec Vanina Santoni. Mais ce n'est pas tout, elle a également remplacé une grande cantatrice que nous aimons bien à Toulouse, qui s'appelle Catherine Hunold, lors de la création mondiale d'un cycle de mélodies composé par Bruno Mantovani, dont ça se passait au Théâtre du Capitole. C'était un cycle mélodique qui s'appelle Amour, accompagné au piano, et c'est elle qui a remplacé Catherine Hunold. Donc voilà, c'est la 4e fois finalement que nous la retrouvons, et cette fois-ci dans le cadre de cette série de concerts qu'adorent les Toulousains, puisque c'est toujours plein, mais plein à craquer. C'est à 12h30.
Oui, on dit midi du Capitole, c'est un midi qui est à midi et demi.
C'est à midi et demi, donc voilà, c'est une heure sans entracte, hein, avec des programmes qui nous permettent de découvrir des...
Et un tarif défiant toute concurrence.
Ah ben oui, ça plutôt, oui, c'est 5 euros.
Donc, c'est incroyable.
5 euros, c'est vous achetez un billet 5 euros et vous rentrez. Alors, dès 11h30, il y a 300 personnes qui attendent devant l'entrée. Mais de toute façon, tout le monde rentre. À partir du moment où vous avez un billet, tout le monde rentre. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Théâtre du Capitole, plus on monte dans les étages et mieux on entend.
Et oui.
Voilà, donc Gabrielle Filipponet, effectivement, est née à Albi. Bon, vous le disiez très, très justement. Donc, elle fait maintenant une carrière qui commence à compter tout de même. Et donc, elle nous arrive ici pour un récital de mélodies et d'air d'opéra parfaitement mélangés. Elle sera accompagnée au piano par Vardouille Yérésistian. Et elle ouvre ce récital par de l'opéra avec un air d'Oscar qui est très connu, extrait du Bal au Mascarade de Verdi, qui s'appelle Saper Voreste. Voilà, c'est un air qui est peut-être aussi connu que le Voi che sapete ou que, voilà, bon bref, des Noces de Figaro. Elle va continuer avec deux mélodies napolitaines hyper connues de Tosti, L'Idéal et April. Elle revient à Verdi avec quelque chose d'un peu plus consistant quand même qu'Oscar, puisque c'est l'un de ses rôles, d'ailleurs, finalement. Elle va nous chanter l'Addio del Passato, extrait de la Traviata de Verdi. Elle revient ensuite avec Jules Massenet, avec Papillon Noir. Papillon Noir, c'est exclusivement pour piano, oui. C'est pas chanté, non. C'est inscrit dans les mélodies, mais non. Excuse-moi, j'ai lu un peu trop rapidement. Ensuite, il y a l'air d'Ernest Chausson, Le Colibri, qui est très connu également. Retour à Massenet avec un extrait des Nuits d'Espagne. Et Manon, et la grande scène de Manon, Adieu, notre petite table. Et je pense qu'elle a la voix idéale pour chanter ça. Ensuite, deux mélodies hyper connues de Richard Strauss, Cécilie et Zweignung. Ensuite, nous passons à quelque chose d'un peu plus, pas sophistiqué, parce que je veux dire, mais d'un peu plus rare dans la mélodie. Ça sera chanté en allemand, et c'est normal, malgré le titre de l'œuvre. C'est une opérette écrite par Franz Lehár, qui, malgré son nom, c'est Giuditta, mais elle s'est chantée, évidemment, c'est l'air de Giuditta, d'ailleurs, Meine Lieben, qui est un air, évidemment, c'est l'air certainement de cette opérette qui est la plus connue. On appelle ça, nous, en France, une opérette, mais c'est plutôt un opéra comique qui demande des voix quand même extrêmement bien placées. Ensuite, pour piano à nouveau, d'Enrique Granados, la cinquième danse espagnole. Et enfin, Gabriel Filipponet termine avec un feu d'artifice, puisque ça sera rien de moins que l'air des bijoux de Faust de Gounod. Voilà.
Oui, alors Gounod, elle a beaucoup chanté l'opéra, me semble-t-il. Mireille, elle a fait Mireille aussi.
Elle a fait Mireille également, voilà. Oui. Elle a fait Mireille, elle a fait Traviata.
Elle commence à avoir une carrière.
Non, mais elle a une carrière et elle a maintenant quand même un beau programme de répertoire. Elle va chanter Alice dans Falstaff à Lille. Elle a chanté dernièrement au festival de Wexford. Maintenant, elle fait une carrière oui, vraiment très très sérieuse. Je n'ai pas franchement son âge, mais je pense qu'elle est encore à l'âge où on peut dire qu'elle doit avoir une toute petite trentaine à peine.
Voilà, on peut dire que c'est même plus qu'un espoir maintenant de la scène lyrique française. C'est déjà une chanteuse accomplie qui a été lauréate du prestigieux concours Reine-Élisabeth tout de même.
À Bruxelles, voilà, oui. Et puis, peut-être que beaucoup de nos auditeurs l'ont entendue, puisqu'elle a participé dernièrement, vous savez, à cette émission en direct sur France 3 et sur France Musique qui, au moment de la fête de la musique, est retransmise depuis les Corrigis d'Orange. Où là, beaucoup, de nombreux chanteurs français sont invités, et des jeunes chanteurs français.
Elle a participé déjà à plusieurs grandes émissions à la télévision, effectivement. Voilà. Alors donc, parmi les nombreuses airs et mélodies que Gabriel Filipponet va chanter, il y a le fameux Saper Voreste, air d'Oscar dans un bal masqué, l'opéra de Giuseppe Verdi. On écoute la jeune soprano française. Saper Voreste, air d'Oscar dans un bal masqué, l'opéra de Giuseppe Verdi, chanté par Gabriel Filipponet, c'est une des pièces au programme du récital que donne la jeune soprano française ce jeudi 2 mars à 12h30 à l'Opéra National du Capitole, où elle est accompagnée par la pianiste Varlui Yerizian, et c'est donc dans le cadre des Midis du Capitole. Nous allons retourner tout à l'heure au Capitole pour vous présenter le récital de Nina Stemme, dimanche 5 mars, mais nous allons faire avant cela un petit détour par là, à Logrin, où se produit l'Orchestre National du Capitole vendredi 3 mars à 20h. L'ensemble symphonique toulousain va y être dirigé par un très grand musicien, le pianiste et chef d'orchestre Christian Zacharias. il est allemand et tout le programme de ce concert viennois, Serge Chosey.
Mais oui, alors ce grand chef et grand pianiste allemand est en fait né en Inde hein, en 1950, donc... Bon, c'est un grand habitué de Toulouse, évidemment.
Ah oui.
Il est fréquemment invité aussi bien au festival Piano Jacobin qu'avec l'Orchestre National du Capitole. Et donc, bon, il est chez lui.
On le voit
Toulouse.
Tous les ans, hein, à un endroit ou un autre. Parfois aux deux.
Oui, oui, absolument. Et alors, le concert qu'il va diriger, dans lequel il va jouer du piano, le 3 mars, donc à 20h, à la Halle aux Grains, est un concert un peu amusant parce qu'il n'y a que des numéros 2. Les trois pièces qui sont données sont des numéros 2.
On se demande s'ils ne l'ont pas fait exprès, quand même.
Oui, je le soupçonne. Effectivement, et des pièces autour de Vienne essentiellement, hein, puisque ce sont des pièces à la fois de Schönberg, puis de Beethoven et de Schubert. Donc, trois grands compositeurs.
Il y a la seconde école de Vienne, mais il y a la première aussi.
Il y a la
aussi.
Première aussi, voilà. C'est vraiment un beau programme qui va débuter donc par cette symphonie de chambre numéro 2, d'Arnold Schönberg.
Ça, alors, c'est une curiosité au sens où on ne l'entend pas très souvent en concert.
Très rarement.
À Toulouse, je ne sais pas, la dernière fois...
Si, elle a été donnée, alors je ne peux pas vous dire quand, mais elle a déjà été donnée, effectivement. Donc, cette symphonie de chambre, alors, c'est une œuvre un peu particulière. Quand on prononce le nom d'Arnold Schönberg auprès d'un certain public, il y en a que ça effraie.
Ah,
ils
oui.
se disent, oulala, c'est de...
Quand je parle de seconde école de Vienne, ça y a beaucoup de gens que ça effraie. Évidemment.
Ah oui, ça va être atonal, ça va être dodécaphonique. Non, eh ben, pas du tout, puisqu'il s'agit d'une œuvre alors dont la création s'étend de 1906 à 1939. Donc plus de 30 ans entre les premières esquisses et la version finale, en quelque sorte. Et donc, en 1939, Schönberg a déjà exploré la musique atonale, le dodécaphonisme, et il retourne un peu à la musique tonale. Donc c'est une pièce de musique tonale. Hein. Il ne faut pas que le public s'effraie et s'imagine entendre des sons bizarres. Non. C'est une œuvre extrêmement belle, très bien écrite, évidemment. Ben, Schönberg est quand même...
Il dure une vingtaine de minutes, je crois.
Oui, à peu près, voilà. 20-25 minutes, oui.
Avec deux mouvements.
Oui, mais c'est vraiment une œuvre attachante. Hein. Alors, disons que Schönberg a également prévu rigoureusement la disposition des instruments sur scène. Donc, il tenait à ce que les instruments soient disposés
d'une certaine façon.
D'une certaine
et qu'on
façon.
N'y touche pas.
Voilà. Donc, je suppose qu'on assistera à ça. Christian Zacharias est très très méticuleux,
et respectueux, je pense,
très respectueux de
des œuvres et de ceux qui les ont composées. Alors, pour illustrer tout ce que vous venez de dire, nous allons écouter cette symphonie de chambre numéro 2 d'Arnold Schönberg. Elle est aussi belle que rarement donnée en concert. Raison de plus pour vous la faire écouter. Voici son premier mouvement, Adagio. la symphonie de chambre numéro 2 d'Arnold Schoenberg et son très beau premier mouvement Adagio. Il y a donc deux autres œuvres au programme de ce concert, Serge.
Mais oui, et la suivante est un concerto pour piano. Bah, évidemment, quand on a sa carrière sous la main, effectivement, il faut lui faire jouer
du
piano. Oui, ce
serait dommage de se contenter de le faire diriger.
Oui, oui, oui. Donc, il dirigera et il jouera en soliste le concerto pour piano orchestre en si bémol majeur de Beethoven, qui est indiqué dans le catalogue comme étant le deuxième, bien qu'il l'ait composé bien avant le premier. Il a été remanié d'ailleurs une première fois en 1798, voyez un peu, lors d'un concert à Prague. Et puis il l'a recorrigé plusieurs fois avant de le publier finalement en 1801 chez Hofmeister à Leipzig comme d'habitude. Donc c'est vraiment un concerto de prime jeunesse hein, pour Beethoven. Et bon, c'est un équilibre délicat qui parcourt les trois mouvements de ce concerto avec des thèmes robustes comme le thème du final et des traits subtils, vraiment d'une beauté extraordinaire dans le mouvement lent. Et on peut dire qu'il hérite de la tradition classique mozartienne, hein, complètement. Hein. On a l'impression que c'est le prolongement des concertos pour piano et orchestre de Mozart.
Alors, il y a une autre œuvre, puisque c'est la soirée des numéros 2. Après la symphonie de chambre numéro 2 de Schoenberg, le concerto pour piano numéro 2 de Beethoven, voici la symphonie numéro 2 de Franz Schubert.
Et voilà, une symphonie que Schubert a composée à l'âge de 17 ans. Encore une œuvre de jeunesse, donc, entre décembre 1814 et mars 1815. Donc, juste un an après sa première symphonie. Alors, bizarrement, c'est une symphonie d'abord extrêmement exubérante, extrêmement heureuse, irrésistible dans ses mouvements extrêmes, en majeur évidemment, et étrangement, son menuet est écrit en mode mineur. Alors ça, c'est assez particulier. C'est effectivement, on trouve ça chez Beethoven aussi, quelquefois. Et donc, c'est une très, très belle symphonie de jeunesse. La symphonie probablement la plus joyeuse de toutes les symphonies du compositeur.
Alors, c'est terrible de dire œuvre de jeunesse pour Schubert. Le malheureux est mort à 31 ans.
Oui, exactement. Non, il faudrait rajouter...
Prime jeunesse, qui n'est pas très souvent donnée en concert.
Non.
Parce qu'on donne plutôt, évidemment, les symphonies de la fin.
Hein. Bien sûr.
Sont plus aboutis.
Ben voilà, oui.
Mais la 9, la 7, la 8,
avec cette cette blague horrible qui avait été émise, je ne sais plus par quel critique, qui disait Schubert a composé deux symphonies, l'une est inachevée et l'autre est interminable, ouais. C'est la 9e. Bon, effectivement.
Alors là, ce sera la numéro 2. Mais bon, nous, en attendant, on ne va pas se priver du plaisir d'écouter ce grand pianiste qu'est Christian Zacharias dans cette émission. Il a très souvent joué le concerto pour piano numéro 2 de Beethoven en concert. Il a très souvent joué les cinq concertos du grand compositeur allemand. Le voici dans une interprétation du troisième mouvement Rondo Molto Allegro. Thank you. Le troisième mouvement Rondo Molto Allegro du concerto pour piano numéro 2 de Beethoven, interprété par Christian Zacharias, le grand pianiste allemand, va donc le donner à la Halle aux Grains vendredi, le 3 mars à 20h, lors d'un concert où il va diriger l'Orchestre National du Capitole. Et nous revenons donc, comme promis, à l'Opéra National du Capitole pour vous présenter le récital de Nina Stemme. Il a lieu dimanche 5 mars à 16h. Pour les passionnés d'art lyrique, c'est vraiment un événement parce que c'est la première fois que cette immense chanteuse vient à Toulouse et parce que c'est une véritable artiste wagnérienne. Elle ne vient pas par hasard au moment où il restera encore une représentation de Tristan et Isolde. Et d'ailleurs, beaucoup considèrent même la soprano suédoise comme la plus grande Isolde en activité. Robert, pour toutes ces raisons, il ne faut pas rater cette occasion de l'entendre au Capitole.
Absolument. Donc ça, alors si vraiment il y a un récital, tous les récitals sont intéressants et passionnants. Mais celui-ci, c'est vraiment une chance inouïe que nous avons parce que, voilà, Nina Stemm était un soprano suédois. Et alors, je vais vous dire ses rôles signatures, bah, parce qu'elle les chante en permanence. Hein. Donc, il y a Isolde, vous venez de le dire, mais c'est pas tout. Il y a les trois Brunhildes, il y a Kundry, Salomé. Dans ce rôle, j'ai eu la chance de l'avoir chanté pour la première fois au Liceo de Barcelone, ce rôle-là. Et je peux vous dire, pourtant, c'était il y a une bonne vingtaine d'années, j'en ai un souvenir absolument ébloui. En plus, donc, elle chante Electra et Turandot. Alors, c'est vrai qu'elle s'aventure pas trop dans le répertoire italien, mis à part Turandot, et on comprend un peu pourquoi, vu les exigences vocales de ce rôle. Mais ces rôles-là, elle les chante dans ce qu'on appelle le top 5 des théâtres du monde, c'est-à-dire le Metropolitan, Vienne, Londres, la Scala de Milan et l'Opéra de Paris. Et nous, nous l'avons au Théâtre du Capitole. Voilà, pour ça va être à nouveau un dimanche après-midi,
le 5 à 16h.
À 16h, voilà.
Et pour 20 euros.
Et pour 20 euros, alors là, il faut louer les places, parce que c'est numéroté. Donc, elle est accompagnée par un de ses confrères scandinaves, qui s'appelle Magnus Svensson. On ne fait pas plus scandinave.
Mais autant Stemme, plutôt germanique, mais là, voilà, Svensson, on est bien voilà. Chez les Scandinaves. Oui.
Alors voilà, le programme, alors attention, je le signale par rapport à ceux qui ont comme livre de chevet la très belle revue du Capitole qui s'appelle Vivace, parce que le programme qui est dans cette revue n'est pas le bon, parce qu'en définitive, il a été modifié, comme c'est arrivé pour le récital de Mathias Gern. Voilà, exactement pareil. Alors voilà, je vais vous donner le bon programme. Alors, le bon programme, attendons-nous, le programme qui sera donné. Alors, il y a, malgré tout, une constante, ce sont les Wesendonck-Lieder. Alors, deux petits mots sur ces Wesendonck-Lieder.
Ah oui, même des grands mots, parce qu'il y a pas mal de choses à en dire. Les gens qui ne connaissent pas disent, mais c'est qui, Wesendonck?
Voilà. Alors, donc, ils sont de Richard Wagner, bien évidemment, et ils ont été composés entre 1857 et 1858. C'est un cycle de 5 mélodies, dont les textes sont, pour la seule et unique fois dans une œuvre de Wagner...
Oui, c'est pas lui qui a écrit le texte.
C'est pas lui qui a écrit les textes, donc c'est Mathilde Wesendonck, qui est née en 1828, on peut le dire maintenant, il y a prescription, et décédée en 1902, quand même.
Oui, oui.
Voilà. En 1902, c'était la femme d'un mécène, du compositeur, d'un mécène et ami. C'est elle qui lui inspira le cycle et à vrai dire, d'après la petite histoire, elle y a inspiré bien d'autres sentiments.
Ça me paraît évident quand on écoute un peu qu'il a fait des textes en question. Et puis, ce qui se dit beaucoup, c'est que c'était aussi même un alibi d'avoir écrit ces mécènes, donc pour pouvoir la voir souvent.
Voilà.
Même si c'était la femme d'un de ses mécènes.
Et pas toujours accompagnée
Et qu'elle était assez nettement plus jeune que lui. Hein.
Voilà, et pas toujours accompagnée de son...
Oui, de préférence, oui, de la voir seule. Vous l'avez dit,
On retire.
Assumez.
Voilà, bon, j'assume, parce que je pense qu'il n'y a pas une seule biographie autorisée de Richard Wagner qui n'en fasse pas mention. Voilà, alors donc, pour venir à des choses un peu plus intéressantes tout de même, rien que les titres, je vais vous le donner en français, de ces cinq mélodies, peuvent déjà rattacher à une espèce de sentiment d'intimité, puisque le premier donc, s'appelle L'Ange, le deuxième Arrête-toi, le troisième Dans la serre, peut-être un lieu de rendez-vous, on ne sait jamais, le quatrième Douleur, Ah. Aïe, 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 aïe. Ouais. Les choses ne se passaient pas forcément comme il le souhaitait. Et le dernier, rêve.
Ah, mais ça se termine bien. Ouais.
Voilà, mais ça se termine bien. Rêve. Ou peut-être comme il aurait souhaité. Bon, voilà, c'est tout.
Voilà, donc 5 R, donc ce n'est pas un cycle très long, ce n'est pas Voyage d'hiver, hein,
non,
on en est loin. Der Engel, l'ange, Stehstil, arrête-toi. Arrête-toi, on se demande à quoi ça fait allusion. Im Treibhaus, dans la serre, Schmerzen, donc douleur, et Traume, rêve au pluriel. Hein.
Oui. Ein Traum, c'est au masculin.
Voilà, Traume, là c'est Traume.
Singulier,
oui,
mais, Traume, effectivement. Au pluriel.
Alors, nous allons écouter une première fois Nina Stemme dans les Wesen, donc Lieder. Elle chante ici le premier lied, Der Engel, l'ange, celui qui ouvre le cycle composé par Richard Wagner. Der Engel, l'ange, le lied qui ouvre le cycle composé par Richard Wagner sur les poèmes de Mathilde Wesendonck, chanté par Nina Stemme. Mais il y a d'autres pièces au programme du récital que donne la grande soprano suédoise dimanche à 16h au Capitole, accompagnée par le pianiste Magnus Svensson. Il y en a même beaucoup d'autres, Robert.
Voilà. Alors, vous qui venez d'entendre, comme nous, Nina Stemme, bon, cette voix gigantesque est encore là, elle n'a pas d'orchestre en face, donc bon, voilà. Et puis l'écriture vocale fait qu'elle n'a pas besoin de trop appuyer le son. Mais on sait un foyer vocal qui est une couleur, une colonne sonore qui, personnellement, me fait chaque fois penser à Flagstad.
Oui,
voilà.
Oui, oui.
Et c'est pas parce qu'elles sont de la même origine, hein, c'est pas du tout ça. Mais c'est, pour moi, c'est l'incarnation de Flagstad aujourd'hui. Alors donc, le deuxième morceau sera un morceau pour piano, et qui est en fait une paraphrase très, très amusante de alors vous qui connaissez les maîtres chanteurs par cœur, c'est, si je vous dis, I'm still unheard. Voilà, ça vous dire quelque chose. Ce sont les premières paroles de l'air de Walter dans le premier acte des maîtres chanteurs. Alors, pendant cette scène, en définitive, il y a, c'est un air, littéralement, mais il y a l'intervention des personnes, d'autres personnes qui sont là, etc. Bon, cette paraphrase qu'a écrite pour piano Franz Liszt, en fait, le compositeur, Franz Liszt, donc, a décidé de supprimer tout ce qui était les interventions des autres personnes. Donc, il s'est concentré sur le rôle de Walter et la musique qu'avait écrite évidemment Wagner là-dessus. Et il a ornementé, en plus, il a développé des thèmes, parce qu'il y a évidemment, comme dans toutes les œuvres de Wagner, toutes les 30 secondes, il y a un thème nouveau qui arrive ou qui est repris, voilà. Et donc, c'est un morceau pour piano, mais je vous assure qu'il est absolument passionnant à écouter, évidemment, extrêmement virtuose au point de vue musical, voilà. Alors ensuite, Nina Stem a décidé de nous faire écouter une œuvre que personnellement je ne connais pas, je ne connaissais même pas le compositeur, Sigurd von Koch.
Von Koch.
Voilà, 1879, le pauvre homme est décédé tôt, jeune du moins, il avait à peine 40 ans, voilà. Et il a écrit un cycle de mélodies sur des poèmes chinois anciens, qui s'appelle La flûte mystérieuse. Voilà. Alors pour moi, c'est très mystérieux. Je ne sais pas si mes camarades autour de la table.
Ça fait penser à Malheur avec les chants de la terre. Hein.
Avec les chants de la terre,
justement,
oui.
Justement, vous tombez bien, puisque la suite, c'est Malheur, justement.
Voilà.
C'est un cycle.
Alors,
évidemment,
après ces mélodies qui sont au nombre de 5, il y aura un entracte tout de même, parce que bon, enchaîner les Wesendonck Lieder, plus ces mélodies-là, il y aura un petit entracte, puisqu'en fait le récital ne fait pas tout à fait 2 heures, 1h45, y compris l'entracte. Voilà, la deuxième partie s'ouvre avec une merveille absolue et extrêmement émouvante, qui sont les chants sur la mort des enfants,
Les Kinder Totenlieder,
voilà, de Gustav Mahler sur des poèmes de Friedrich Rücker. Et alors voilà, ce malheureux poète évidemment a écrit cette suite très nombreuse, puisqu'il y en a 428 poèmes, suite au décès de ses 2 enfants. Donc on imagine bien que cet homme avait besoin, peut-être c'était pour lui une manière d'exorciser sa douleur qui de façon, j'imagine, ne s'est jamais éteinte. Et donc Gustav Mahler a décidé d'en prendre 5 et de les mettre à musique avec orchestre immédiatement, alors que très souvent c'est piano puis ensuite c'est orchestré, là ça n'a pas été le cas, voilà. Donc il y a même eu un petit problème dans le couple Mahler au sujet de cette composition, puisque sa femme Alma Mahler lui a reproché immédiatement, même pendant la composition qui a été un peu longue, qui a duré de 1901 à 1904, lui a reproché de faire ce cycle en lui disant, mais enfin, nous avons, et la pauvre, bon, elle ne savait pas ce qui allait leur arriver, nous avons la chance d'avoir une fille, mais elle est toujours vivante, et nous avons un enfant, et en plus, il est toujours vivant, pourquoi tu composes quelque chose sur des enfants morts? Voilà. Et puis malheureusement, leur fille est décédée peu de temps après. Voilà. Donc quand on regarde évidemment les textes mis à musique, bon... on s'aperçoit que, voilà, le premier texte, c'est « Maintenant, le soleil va se lever si brillant ». Le deuxième, c'est « Maintenant, ça commence pareil, et, je vois bien pourquoi ces flammes sont aussi sombres ». Vous voyez un peu l'ambiance. Le troisième, vraiment, à faire pleurer des pierres, ben, il commence « Si ta petite maman ». Donc, vous voyez un peu l'ambiance générale. Le quatrième, c'est pas mieux. Souvent, je pense qu'ils sont seulement sortis. Voilà. Et en fait, le dernier, voilà, par ce temps, avec cette averse, etc. Voilà, bon, c'est un cycle qui est déchirant, mais vraiment déchirant, mais qui est magnifique. Ouais. Voilà.
Alors, ça finit de façon un peu plus joyeuse tout de même, le récital.
Oui, alors heureusement. Alors, c'est un cycle qui a été écrit pour voix de femme ou de baryton, voix de femme plutôt de mezzo-soprano. Voilà, et donc il y a un enregistrement de référence, je crois, et c'est celui qu'a gravé en 1949 Catherine Ferrière, suivi de très près par un enregistrement, comme par hasard, avec Kirsten Flagstad. Voilà. Et donc, comme vous dites, Eric, Nina Stem a décidé de finir sur un autre ton, puisqu'elle nous amène sur un compositeur qui est quasiment contemporain, Kurt Weill, puisqu'il est décédé en 1950, hein, n'oublions pas, dont nous, avec Serge, nous l'avons bien connu d'ailleurs. Et donc, sur deux mélodies sur des textes de Bertolt Brecht. Et puis, elle finit avec Youkali, qui est bien connu.
Le fameux Youkali
sur un texte de Roger Fernet. Voilà.
Voilà, bah, c'est une très, très belle après-midi, là, dimanche, qui se prépare, qu'il ne faut absolument pas rater.
Unique. C'est unique.
Ah,
attention,
c'est un
rendez-vous unique.
Oui, parce qu'on ne la reverra certainement pas.
Non.
Voilà. Donc, si vous voulez l'entendre sur scène, en concert à Toulouse, c'est le moment. Et c'est donc le dimanche 5 mars à 16h, l'Opéra National du Capitole, où la grande soprano suédoise va se produire, accompagnée par le pianiste Magnus Svensson. Il y a donc les Wesendonck-Lieder au centre de ce programme. Vous pouvez réserver et acheter vos places en ligne sur le site www.theatredukapitole.fr. C'est la fin de ce 221e numéro de Mélomanie. Merci beaucoup à Serge Chauzy et Robert Pénavert d'en avoir été les invités et les co-animateurs à mes côtés. Je rappelle que les représentations de Tristan et Isolde se poursuivent à l'Opéra National du Capitole. Il y en a trois, les 1er et 7 mars à 18h, ainsi que le 4 mars à 15h, avec Sophie Koch dans le rôle d'Isolde et Nikolai Choukov dans celui de Tristan. D'autre part, la soprano Gabrielle Philipponnet donne au même endroit un midi du Capitole, ce jeudi 2 mars. Il commence à 12h30 avec de très nombreux airs d'opéra au menu, des mélodies aussi. Pour réserver et acheter vos billets en ligne pour ce récital, comme pour les représentations de Tristan et Isolde, où il reste encore quelques places, il faut se connecter également à l'adresse www.theatredukapitole.fr. Et enfin, pour le concert de l'Orchestre National du Capitole dirigé par Christiane Zacharias à la Halle au Grain vendredi 3 mars à 20h, les réservations et achats des places en ligne sont à faire sur le site www.onct.toulouse.fr. Tous mes remerciements à Christophe Aubry qui a réalisé ce numéro, dont le podcast est téléchargeable dès aujourd'hui, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Et enfin, merci à vous tous qui écoutez fidèlement Mélomanie chaque mardi et mercredi sur notre antenne. Excellente semaine musicale à tous.